C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'exécutif et le Sénat partagent une inquiétude, celle de la sécurité. Alors que les Gilets jaunes restent déterminés à manifester samedi, Édouard Philippe annonce la mobilisation de moyens exceptionnels pour maintenir l'ordre. Le maintien de l'ordre, oui, mais pas au point de menacer la vie des manifestants. Des avocats réclament l'interdiction des grenades lacrymogènes assourdissantes Gli F4. Un jeune homme qui manifestait sur les Champs-Élysées a eu une partie de la main arrachée. Pour parler de paix en Suède sur le Yémen, des consultations sous haute tension destinées à réduire la violence sur le terrain et à atténuer la crise humanitaire. Les pays exportateurs de pétrole s'accordent sur une réduction de leur production, mais pour plus de précision, il faudra attendre les discussions avec la Russie demain. Le pays est, selon eux, au bord de l'insurrection et de la guerre civile. Le collectif des Gilets jaunes libres demande à être reçu demain par le chef de l'État pour négocier avec lui sur le pouvoir d'achat. Une revalorisation du SMIC, des retraites, des pensions d'invalidité et des pensions des personnes handicapées. Voilà une partie des revendications de ce collectif, en rupture avec les initiateurs de mouvements dont ils jugent la ligne trop radicale. Les lycéens, les agriculteurs, plusieurs corporations sont dans la rue. L'économie commence à avoir un genou à terre. Combien de temps Emmanuel Macron mettra-t-il pour entendre la détresse des Français? Combien faudra-t-il de morts? Se demande Benjamin Cauchy, l'un des représentants des Gilets jaunes libres. Pour lui, il faut que le président prenne conscience de sa responsabilité. On voit que la réponse de l'exécutif, l'annulation de la taxe carbone, est déjà dépassée. Les Gilets jaunes veulent plus et restent déterminés à manifester samedi. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Devant le Sénat aujourd'hui, le Premier ministre a voulu montrer qu'il avait entendu la souffrance exprimée par les Gilets jaunes et il se dit ouvert à des mesures en faveur des bas salaires.
Oui, et c'est devant les sénateurs cet après-midi qu'Édouard Philippe a choisi de faire un pas de plus, d'afficher son ouverture.
Je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises.
L'air plus serein dans une ambiance bien plus calme aussi qu'à l'Assemblée nationale hier. Le Premier ministre a réitéré son appel au calme avant la manifestation de samedi. Il a d'ailleurs terminé son discours en saluant ceux qui l'ont suivi.
Des organisations syndicales, des associations, des élus nationaux, quelles que soient les formations politiques dont ils sont membres. Cette responsabilité les honore et je voudrais dire combien elle les grandit.
Et de fait, tous les chefs de groupe ont appelé au calme tout à l'heure au Sénat, comme Bruno Retailleau pour Les Républicains, ce qui ne l'a pas empêché de dénoncer le nouveau monde de Macron.
Depuis le début de cette grande colère, vous avez semblé en décalage, comme essayant de courir après les événements. Vous avez du mal à la saisir, parce que vous vous êtes d'abord installé dans une situation de déni. Après ce déni, il y a cette forme d'arrogance. Qu'est-ce que ce nouveau monde, si ça n'a été le prétexte à détruire l'ancien, à enjamber, oui, à enjamber les corps intermédiaires, les maires notamment?
Et pendant ces deux heures de débat au Sénat, l'opposition a dénoncé des mesures insuffisantes. Elle a rappelé l'urgence d'en prendre de nouvelles, comme Éliane Assassi du groupe CRCE à majorité communiste.
Il reste quelques heures à Monsieur Macron et je m'adresse directement à lui pour agir et prendre des décisions fortes sur le pouvoir d'achat et sur la justice fiscale. Maintenant, il doit rétablir l'ISF. Maintenant, il doit décider une augmentation massive, significative du SMIC à hauteur de 200 euros net par mois. Maintenant, il doit revenir à l'augmentation de la CSG sur les retraites.
Et puis à noter aussi cette intervention de Claude Maluret du groupe des Indépendants qui a appelé au respect des institutions et demandé à ses collègues sénateurs de s'interroger sur l'une des premières revendications des Gilets jaunes, la suppression du Sénat.
Alexandra Dubouchereau, le gouvernement redoute les débordements et les violences. Édouard Philippe annonce le déploiement de moyens exceptionnels samedi, en plus des 65 000 policiers et membres des forces de l'ordre mobilisés en France. Des maires appellent eux aussi au calme. Le temps du dialogue et de l'échange est venu, tout le monde doit y prendre part, déclare l'Association des maires de France. L'Association des maires ruraux et celle des petites villes de France invitent leurs élus à ouvrir leur mairie pour écouter les citoyens mécontents, sans prendre parti, sans juger, sans contredire et faire ensuite remonter l'information chez certains responsables politiques. On sent aussi cette volonté d'apaisement, mais elle n'est pas partagée par tous, Sophie Delpont.
Oui, tout dépend en fait de la manière dont on conçoit la notion d'apaisement. Si on en croit le député France Insoumise François Ruffin, face aux menaces d'une nouvelle escalade de la violence samedi, il refuse de lancer un appel au calme, contrairement à la quasi-totalité des représentants politiques.
Non, absolument pas. D'abord, je n'ai aucun poids pour appeler les Gilets jaunes à quoi que ce soit, mais tous les responsables politiques sont responsables de leur parole. Le premier à être responsable de sa parole, ça doit être Monsieur Macron. Or, Vous savez, il y avait quand même cet éclair de lucidité chez Louis XVI au soir du 14 juillet quand il lui demande « mais c'est une révolte ?» et on lui répond « non, sire, c'est une révolution ». Là, on a des Champs-Élysées qui sont en feu. Ça s'annonce pire peut-être pour samedi. Il n'y a pas de violence justifiée, mais simplement, il y a une rage aujourd'hui qui traverse le pays. Et regardez, hier soir, c'est mettre de l'huile sur le feu. On a des ministres qui viennent avec un petit peu de bon sens dire « bon, bah l'ISF, on va voir pour rétablir un peu de justice, ce qu'on peut faire sur l'impôt de solidarité sur la fortune ». Et Emmanuel Macron décide « non, non, il n'y aura rien là-dessus ».
Invité du journal de Midi et demi sur France Culture aujourd'hui, Mathieu Orphelin, député La République En Marche, accuse François Ruffin d'attiser la colère et la violence avec toujours cette image de mettre de l'huile sur le feu.
Il sait très bien ce qu'il fait, il met de l'huile sur le feu. Il est là dans un jeu politique très dangereux. Donc voilà, chacun ses responsabilités. Moi je crois que tous les responsables politiques, tous les citoyens, les gilets jaunes, les autres, tout le monde, on a tous la même responsabilité. C'est samedi qui est le moins d'affrontements possible. Donc quand on voit certains responsables politiques comme François Ruffin se délecter d'avance des affrontements qu'il y aura samedi, bah oui, ça me fait mal aux tripes.
Chacun se renvoie donc la balle de la responsabilité face à un embrasement possible et au risque de très graves violences de samedi prochain, face à un mouvement qui ne reconnaît aujourd'hui encore aucune forme de représentation politique.
Si l'exécutif redoute de nouvelles violences, les forces de l'ordre sont elles aussi pointées du doigt et un collectif d'avocats demande l'interdiction des grenades Gli F4 qui ont blessé plusieurs personnes lors des manifestations des Gilets jaunes du 24 novembre et du 1er décembre à Paris. Au total, 339 grenades ont été tiré ce week-end par les forces de l'ordre, Didier Morel.
Samedi dernier, sur les Champs-Élysées, une grenade explose juste devant Gabriel, un gilet jaune de 21 ans. Son corps est criblé de multiples éclats, sa main droite déchiquetée. Malgré plusieurs opérations, il n'est pas certain de récupérer l'usage de tous ses doigts. Gabriel n'est pas la seule victime de ces grenades. Ils sont déjà 4 manifestants à porter plainte. D'autant que, selon eux, il n'y a pas eu de tir de sommation. Leur avocat demande par ailleurs l'interdiction totale des grenades en cause, les Gli F4. Il les assimile à des armes de guerre, car elles contiennent du TNT, un puissant explosif à fort effet de souffle. La France est le seul pays européen à encore les utiliser, déplore Maître William Bourdon.
Face à des situations de violence urbaine lourdes qu'a connues l'Allemagne ou l'Italie, aucun autre pays européen n'a dans son dispositif, n'a dans son arsenal des grenades aussi dangereuses et mortifères, létales, que ces grenades qui aujourd'hui continuent à être dans les stocks des forces de police françaises. Donc halte à la surenchère sécuritaire, en conscience, en responsabilité et responsabilisation de l'État pour responsabiliser les acteurs publics pour que demain ne se répète pas, ne se récidive pas ces terribles drames humains.
Cette demande d'interdiction reste envisageable car déjà obtenue par le passé pour des grenades d'un autre type, les OFF1. C'était en 2014, un mois après la mort de l'étudiant Rémi Fraisse, sur le barrage de Sivens.
Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas officiellement réagi à l'appel des avocats. Le mouvement des Gilets jaunes semble avoir galvanisé certains lycéens. Depuis le début de la semaine, 200 à 300 lycées, soit 5 à 7% des établissements, sont bloqués ou perturbés. Et les revendications ne se résument pas à la suppression de la réforme de l'accès à l'université. Devant le lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement de Paris, Cécile de Kervas-Doué a rencontré Alphonse. Sa mère est femme de ménage et ce qu'il réclame avec ses camarades, comme les Gilets jaunes, c'est plus de justice sociale.
Bah on sent qu'il y a un espèce de ras-le-bol social général, enfin on le voit avec les Gilets jaunes. Ils manifestent pour la loi sur le carburant, mais c'est comme Gandhi et les taxes sur le sel en Inde, vous voyez. C'était un symbole pour représenter la domination d'Angleterre. Bah là, c'est pareil, la taxe pour le pétrole, c'est juste un argument. Il y en a tellement d'autres derrière.
Mais alors justement, qu'est-ce que vous voudriez pour arrêter le blocus?
Déjà, le rétablissement de l'ISF, quelque chose de plus juste, qui creuse moins les différences sociales. Être moins sélectif peut-être pour les écoles supérieures, etc. Il y a le SNU. C'est une sorte de mini-service militaire de un mois par an. Et en fait, ça va coûter 3 milliards d'euros. Et à côté de ça, ils sont quand même en train de supprimer 1800 postes d'enseignants en disant qu'il n'y a pas assez de budget, mais ils mettent de l'argent ailleurs et dans des choses qui ne sont pas si utiles que ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt consacrer cet argent à l'enseignement? C'est comme, par exemple, les étudiants non européens, pour qui les frais d'inscription vont passer de 170 euros à presque 2500 euros. Peut-être qu'on peut se sentir pas concerné, vu qu'on habite en France, pour nous l'éducation est gratuite, laïque, etc. Mais en attendant, est-ce que c'est pas un premier pas vers tout l'enseignement qui deviendrait payant? Enfin, ce système, il peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et s'il y avait un autre moyen de s'exprimer, moins violent, on va dire, et plus démocratique, par exemple un référendum ou quoi, bah là, à ce moment-là, je pense que autant nous que les Gilets jaunes n'iraient pas sur les Champs-Élysées pour tout casser.
Et les rassemblements de lycées sont souvent agités. Hakim Kasmi, il y a eu aujourd'hui encore des dégâts matériels et des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait des blessés.
Oui, des blocages, des barrages ont été dressés et des palettes brûlées pour empêcher les élèves d'accéder à leur établissement, avec une situation particulièrement spectaculaire à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, dans les Yvelines, où 148 personnes ont été interpellées devant un lycée pour participation à un attroupement armé après des heurts et des dégradations. Une situation que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire, hein. Par exemple à Strasbourg, Lille, Annecy, Marseille ou Toulouse. Selon le ministère de l'Éducation nationale, on est au même niveau de blocage d'établissements depuis le début de la semaine, avec 200 à 300 établissements concernés. Sauf que les violences ont tendance à se durcir et les appels au calme de Jean-Michel Blanquer n'y changent rien. Bien au contraire, ils cristallisent le mécontentement des lycéens face au durcissement du ton des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui sont elles aussi blessées, puisqu'aujourd'hui, bien, un policier a grièvement été blessé à Beauvais par des lycéens. Il a 7 jours d'arrêt de travail. Du coup, aujourd'hui, il y a un véritable risque de contagion du mouvement, car les syndicats lycéens qui ne sont déjà pas d'accord entre eux sont divisés et n'appellent pas à manifester les mêmes jours. Ils ont de moins en moins du coup la main sur l'ensemble des élèves, et ce, de l'aveu même des leaders syndicaux comme Louis Boyard, président de l'UNL, qui estime ne pas avoir besoin des autres syndicats dans la lutte. L'UNL qui manifestera demain à Paris, entre Stalingrad et la République, Paris, sur le doublement des établissements bloqués, soit 500 lycées concernés sur l'ensemble du territoire. À voir demain soir, Aurélie.
Hakim Kasmi. À Vienne, en Autriche, on attendait aujourd'hui la décision de l'OPEP. Les pays exportateurs de pétrole sont bien d'accord pour baisser leur production et tenter ainsi d'enrayer la chute des cours de l'or noir. Mais ce soir, l'ampleur de cette baisse reste inconnue, car aucune décision définitive ne pouvait être prise en l'absence de la Russie. Les précisions à Vienne de notre correspondante Isorias.
Les cours du pétrole ont chuté de 30% depuis octobre, intenable pour les pays exportateurs de l'OPEP et leurs alliés, qui souhaitaient donc s'entendre aujourd'hui sur une baisse de la production afin d'équilibrer l'offre et la demande et donc faire remonter le prix du baril. Selon des sources internes à l'OPEP citées par plusieurs agences, un accord de principe aurait été trouvé pour une baisse, mais une question d'importance demeure. Quelle ampleur aura-t-elle ? L'Arabie Saoudite a évoqué aujourd'hui une baisse de production d'un million de barils par jour, mais rien n'aurait été acté aujourd'hui. Le sujet devrait donc de nouveau être sur la table demain lors d'une réunion entre l'OPEP et ses partenaires, au premier rang desquels la Russie, appelée à jouer un rôle clé. En tout cas, même en l'absence de chiffres concrets, cet accord provisoire ne devrait pas réjouir Donald Trump, le président américain qui a plusieurs fois exhorté l'OPEP à renoncer à une baisse de production de pétrole afin de maintenir des prix bas.
Isorias, à Vienne. Les pourparlers de paix sur le Yémen se sont ouverts à Stockholm, en Suède. Et l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, salue le bon départ des discussions avec un accord sur la libération de milliers de prisonniers. Mais les délégués du gouvernement yéménite et ceux des rebelles houthis ne devraient pas négocier face à face tant les crispations sont fortes. Et l'équipe onusienne doit faire la navette entre les délégations. Avoir pu amener les deux parties à la table des discussions était en soi un exploit, Omar Woman.
Pour parvenir à réunir les belligérants dans la capitale suédoise, les négociations ont été particulièrement âpres. Les rebelles houthis, sans qui aucune paix durable n'est possible, ont exigé dans un premier temps l'évacuation de 50 de leurs blessés, les cas les plus graves, vers Oman, le pays voisin. Autre condition posée par les insurgés, soutenue par l'Iran, que la sécurité de la délégation rebelle soit assurée par les Nations Unies, garant de ce sommet de Stockholm. Mais ce qui a ouvert la voie à ces consultations de paix, c'est surtout l'accord conclu pour l'échange de prisonniers. Il concerne près de 1500 membres des forces pro-gouvernementales et presque autant de rebelles houthis. Mais la paix au Yémen passe d'abord par Hodeïda, contrôlée par les rebelles et théâtre de violents combats. Les négociations en Suède viseront surtout à consolider le cessez-le-feu dans cette ville, véritable poumon du pays. Pas moins de 70% de l'aide humanitaire transite par le port de cette agglomération située sur la mer Rouge. L'urgence est d'éviter une catastrophe humanitaire majeure après bientôt 4 ans de guerre.
L'Union européenne renforce sa contribution au projet de développement du G5 Sahel, des projets axés sur la prévention du terrorisme. L'Union et la France annoncent un total de 1,3 milliard d'euros de financement. Dans les régions frontalières où les djihadistes tirent parti des carences des États pour s'implanter, l'Europe apporte aussi son soutien à des structures plus surprenantes comme les unités méharistes, des militaires à dos de dromadaires, que vous avez pu observer à la frontière mauritano-malienne, Claude Guibal.
La scène pourrait sortir d'un film. Des guerriers à dos de dromadaires sur fond de désert, de dunes, de soleil aride. Mais sur cette frontière de sable invisible et mouvante entre Mauritanie et Mali, les dromadaires sont pourtant partie prenante du dispositif sécuritaire du G5 Sahel. Patrouille, mais aussi contrôle des populations, police administrative, contrôle du curage des puits, la tâche des méharistes est multiple. Le colonel Abderrahman Khalil dirige le groupement nomade de la garde nationale.
Il est efficace dans les zones reculées, dans les zones difficiles, les zones inaccessibles. C'est là où il y a la discrétion. Est-ce que vous voyez, un chamelier peut faire toutes les missions, sans pour autant qu'on sache à qui il appartient.
Les méharistes vont ainsi là où les véhicules ne peuvent pas passer. Ils se fondent dans le paysage, la population, un outil précieux en termes de collecte de renseignements dans cette région où trafiquants et djihadistes profitent des failles de présence de l'État. Le dispositif fait partie des projets financés par l'Union européenne dans le cadre de son soutien au G5 Sahel. Il faut compter 1500 euros par monture équipée. Un bon soldat ne faisant pas pour autant un bon chamelier, le cumul des fonctions complique le recrutement. Le port altier, fondu sur le dos de leurs animaux, les soldats ne semblent faire plus qu'un avec leur monture, silencieuse et souple, silhouette familière et éternelle des sables du Haut-Déchargui.
Claude Guibal. En Allemagne, un millier de délégués de la CDU se retrouvent demain à Hambourg pour désigner le successeur d'Angela Merkel à la tête du parti chrétien-démocrate. La chancelière ne se représente pas, elle a perdu trop de crédit politique. La popularité d'Angela Merkel est en chute depuis sa décision en 2015 d'accueillir 1 million de migrants en Allemagne. Paradoxalement, ce défi a été largement relevé et l'Allemagne a réussi à intégrer des centaines de milliers de réfugiés malgré d'énormes différences culturelles. Illustration avec le reportage de Bertrand Galichet à Berlin.
Sur la façade du Kreuzberger Himmel, dans ce quartier branché de Berlin, rien n'indique que le restaurant est tenu par des réfugiés. Et à l'intérieur, le menu qui annonce des plats syriens n'est guère plus explicite. Pourtant, la cuisine et le service sont exclusivement confiés à des migrants, arrivés pour la plupart avec la vague de 2015, comme ce serveur qui ne parlait pas un mot d'allemand il y a 3 ans.
Je viens de Syrie, de Damas. Je suis arrivé en Allemagne en 2015 et depuis, je suis à Berlin.
Que faisiez-vous à Damas ?
J'étais étudiant en traduction pour l'anglais et vendeur dans le commerce de détail. Je dirais pendant 6 ans.
Vous avez appris l'allemand ici ?
Oui, ici, à Berlin. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je devrais parler allemand, mais ça a été.
Où est votre famille ?
Partout. Au Liban, à Damas, en Turquie, en Égypte, partout.
Vous voulez vivre et rester ici ou bien avez-vous un autre projet ?
Ça dépend de beaucoup de choses, à vrai dire. Heureusement, pour moi, en Allemagne, tout a bien marché.
Tout dépendra de la situation en Syrie, explique ce jeune homme de 30 ans qui a repris des études à Berlin. Son intégration est rendue possible par la mobilisation d'une grande partie de la société allemande, avec le soutien de bénévoles déterminés. Andreas Tolke, un ancien journaliste de 58 ans, a piloté l'ouverture de ce restaurant en janvier dernier.
Au départ, c'est l'ONG BN Angel qui a démarré l'ensemble de ce projet. Heureusement, nous avions le soutien de l'Église catholique qui a loué ce restaurant en dessous du prix du marché. En Allemagne, et pas seulement à Berlin, nous étions face à des réfugiés sans abri, sans aide médicale, sans argent. Si ces personnes avaient la possibilité d'une vie acceptable dans leur propre pays, elles rentreraient chez elles. Nous voulions que les Allemands rencontrent les réfugiés et que les réfugiés puissent travailler, gagner de l'argent et avoir un métier.
C'est le cas de Maziar, 23 ans, arrivé d'Iran en 2014 après un long périple pour fuir la répression religieuse des mollahs. Il a appris le métier sur le tas avec l'association qui gère le restaurant et se débrouille déjà bien en allemand.
Je n'avais jamais travaillé dans la restauration quand j'étais en Iran. Et c'est une expérience pour moi. Ça me plaît beaucoup. Les autres employés sont tous très sympas. Je réussis dans mon travail et tout va bien.
Cette image d'Épinal ne fait pas oublier les difficultés que doivent surmonter les réfugiés arrivés massivement en Allemagne, mais les moyens mis en œuvre pour favoriser leur intégration, l'implication de beaucoup d'Allemands et la situation économique florissante ont jusqu'à présent permis de relever cet énorme défi.
Bertrand Galichet à Berlin pour France Culture. Demain vendredi, le temps devrait se dégrader d'ouest en est avec du vent et des passages pluvieux. Sur les régions méditerranéennes, pas de pluie, mais le vent d'ouest se renforcera nettement en soirée. Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés, les maximales de 10 à 18 du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.